Cuisin, septième ombre sanglante, le faux capucin ou la tête sanglante et mobile, histoire véritable. En exergue, l'homme sans vertu est un homme mort. Fut-il roi, sa robe royale n'est qu'un drap mortuaire sous lequel il est enseveli. Mais de l'homme sans vertu à l'homme qui considère l'édifice sacré de la moralité publique comme un monument puéril érigé seulement par les esprits faibles, la distance est encore immense, et c'est de cette espèce de scélérat dont nous allons vous entretenir dans la personne de Van Deswieten, fameux banquier de Rotterdam. Dès sa plus tendre enfance, notre héros annonça les plus funestes inclinations. Son cruel plaisir était d'empoisonner les chiens de chasse de son père, de faire périr par mille souffrances prolongées les oiseaux que sa mère avait adoptés, et quand il fut plus grand, de martyriser les chevaux qu'il faisait périr à force de courses. Les domestiques eux-mêmes ne furent pas étrangers à ces cruautés, et plus d'une femme de chambre essuya les plus douloureux traitements. Deswieten était d'ailleurs doué d'une très belle physionomie, masque imposteur qui ne favorisait que trop sa perversité. Quand il se vit maître d'une fortune colossale après la mort de ses parents, circonstance dans laquelle il fut violemment soupçonné d'empoisonnement, ses penchés criminels prirent un essor d'autant plus grand qu'il s'était fait longtemps violence sous le pouvoir de l'autorité paternelle. De l'abus de confiance dans l'administration des sommes considérables, des fortunes qu'on lui avait remises entre les mains, il passa aux plus affreuses concussions et, dépositaire infidèle, il plaça bientôt sur son front déhonté l'opprobre du banqueroutier frauduleux. Ainsi, comme la plupart de ces faiseurs de bilans fallacieux qui ne font qu'enrichir le négociant en faillite, Deswieten marchait à la fortune par le chemin qui mène à l'échafaud. Déjà trois banqueroutes presque successives avaient, par leur énormité, ébranlé le monde marchand de leur influence sur le commerce de la Hollande et de l'étranger, et notre effronté coquin n'en affichait pas moins un luxe effréné. Cependant, par une de ces bizarreries dont on se rend difficilement compte à soi-même, Deswieten jouissait d'une commode impunité. Frappé d'infamie dans l'opinion des honnêtes gens, il n'envoyait pas moins la meilleure société de Rotterdam, où, s'il ne laissait pas d'y être profondément méprisé en secret, il n'y donnait pas moins une libre carrière à ses inclinations galantes et se signalait par main de bonne fortune sur ce qu'il y avait de mieux en femme à la mode dans cette ville. Ses prospérités d'amour ne revêtirent d'abord que les formes ordinaires de la galanterie. Feindre d'aimer, tâcher d'être promptement heureux, et nouveau Faublas, papillonner sur les roses du plaisir, ne fût-ce que pendant quelques années, pour notre Hollandais, qu'un cercle amusant, qu'il s'efforçait toujours d'agrandir par de nouvelles conquêtes. Mais tout cela, enfin, n'était pour ces gens sans sa vie de recherche, et de recherche cruelle, qu'un bonheur commun, tout à fait dépourvu des charmes de l'extraordinaire. Il avait déjà atteint d'ailleurs 36 ans, époque à laquelle les passions prennent une direction funeste vers le vice, quand de bons principes ne vous ont pas préparé de longue main un avenir de probité et de sagesse. C'est ordinairement à cet âge, dis-je, que les sens d'un voluptueux de profession un peu blasé, un peu usé sur des illusions éteintes, se réfugie dans les dérèglements de l'imagination pour y trouver un délire qui ne vient plus à la seule voie de la nature. D'abord, ce ne sont que des puérilités de débauche, plutôt faites pour exciter le rire de la pitié que le sentiment de l'indignation. des enfantillages dont on ne peut que hausser les épaules. Mais bientôt, de ces premières irritations du vice traitées en enfant gâté, l'esprit ambitieux de chimères voluptueuses cherche à suppléer à l'impuissance de nos forces physiques par les velléités du crime, et follement coupable par volupté, s'imagine que la coupe du plaisir ne peut plus être agréable aux lèvres que remplie du sang précieux et d'une touchante beauté. L'histoire ne nous fournit que trop de ces exemples monstrueux, de ces inventions homicides où le plaisir des sens n'arrive à son périgée que par le spectacle de la douleur. Néron, l'affreux Néron, Tibère, Caligula surtout, qui savourait la pensée atroce de faire rouler sur le parquet la belle tête de sa maîtresse. Denis l'Ancien, tyran de Syracuse, qui n'avait jamais connu la volupté que dans le meurtre. Plus, cette célèbre princesse de Sardis, qui jouait au dé la vie d'un de ses esclaves, comme on parie 1000 guinées à Londres dans une course de chevaux. Tous ces exemples fameux, dont la Grèce et l'Asie abondent, ne prouvent que trop que l'homme épuisé dans ses moyens naturels croit y suppléer par les violentes vibrations du forfait, tandis qu'au fond, il ne fait qu'étreindre l'ombre sanglante des remords au lieu de la déesse enchanteresse qu'on adore à Gnide. Désuitaine, amolie par le luxe, affadie par de faciles possessions, enhardie dans ses crimes par des succès qui jusqu'alors ne s'étaient jamais démentis, croit pouvoir prendre dans l'Antiquité des apologies sans réplique, et s'autorisant des paradoxes infâmes d'un livre trop fameux, il ne marche plus désormais vers le temple de Cythère qu'un fer aigu à la main. Quelle volupté! C'est celle des enfers. D'abord, à force d'or, ils trouvent des prostituées qui ont l'infamie, suicide de leurs attraits, de trafiquer de la quantité de leurs blessures et de leurs cicatrices, et à tarif à la main, stipulent pour le nombre de gouttes de sang qui doivent sortir de leurs contours les plus délicats. Car cet horrible marché de la prostitution s'est fait 1000 fois et ne se fait que trop souvent encore, malheureusement. Deswitten, se livrant donc au vice en vicieux désordonné, ne connaissait plus de frein et ne faisait que renchérir chaque jour sur ses recherches monstrueuses. À l'aide de quelques compagnons de débauche qui partageaient avec lui dans une criminelle clandestinité le délit et le fruit de ses faillites, il avait fait tendre un de ses appartements tout en noir, qu'il avait appelé la chambre ardente. On y voyait un cercueil entouré de longs cierges, placé sur un superbe lit de parade, garni de franges d'argent et investi d'urnes lacrymatoires. Et c'est dans ce cercueil que Deswitten plaçait nue l'actrice déhontée qui avait souscrit au marché. Alors, le contraste frappant des couleurs, la blancheur des formes qui ressortait si vivement au milieu des draperies de velours noir, le caractère de douleur et de désespoir qu'avait ordre de prendre l'héroïne tout échevelée de la scène, en ayant l'air de se débattre avec violence au milieu de sa tombe artificielle, tout cet appareil imposant de deuil et de silence, ce mélange de nudités éblouissantes de leur albâtre et de crêpes funèbres produisait sur son imagination un nouveau sentiment d'exaltation indicible. Alors il se précipitait en furieux sur celle qui évoquait le dieu d'amour du sein de sa tombe, et il profanait ainsi la dernière demeure de l'homme par ses baisers sacrilèges. Mais depuis la nouveauté, ce tyran insatiable était au cercueil, ainsi que les plastrons de ses goûts. et les imprudentes qui jouèrent ce rôle par la suite manquèrent y payer de leur vie leur luxure cupide. Car de même que beaucoup d'hommes ne se transportent qu'au son mélodieux d'un instrument, de même notre héros libertin n'était irrité qu'à l'aspect des plus vives transitions des couleurs. L'extrême blanc, l'extrême noir étaient donc pour lui les deux pôles opposés du plaisir. Une vive nuance, dit-il un jour, manque à ce magnifique tableau. C'est un beau carmin. Le monstre eut donc la scélératesse de frapper d'un stylet meurtrier les infortunés qui, ne s'étant confiés qu'à son libertinage, n'avaient jamais soupçonné qu'elle ne traitait qu'avec un assassin. Depuis cette époque, des huitaines, entraînées dans l'abîme des monstruosités, distribua la mort au milieu de ses odieuses caresses et, pour éviter l'échafaud, condamna au silence de la tombe les malheureuses qu'il avait séduites et entraînées dans sa chambre ardente. Mais ce n'est pas tout, ainsi que la vertu, le crime à ses degrés. Cette perversité de goût qui le portait à immoler pour éprouver des sensations extraordinaires, emportant avec elle mille dangers, la femme ne songea plus désormais qu'à commettre des assassinats furtifs sous le voile de l'adresse et du mystère. Et sa dextérité naturelle, secondant sa perfidie, maintes jolies femmes prises au dépourvu à la sortie d'un spectacle, d'un bal, ou le soir dans les rues, sentirent leur linge ensanglanté dans les parties les plus révérées par l'amour, et plusieurs moururent, soit de saisissement, soit de la profondeur de leurs blessures. Ce nouveau genre de forfaits inconnus jusqu'alors parmi les nations de l'Europe éveilla de toutes parts la vengeance des lois et l'indignation publique. Déjà, on désignait deux huitaines tarées dans l'opinion comme le seul monstre capable d'une telle horreur. D'autres dénonciations vinrent à l'appui et ses richesses dissipées ne lui permettant plus de calmer ses clameurs sous un voile d'or, il se détermina à partir pour l'Allemagne avec les débris de sa fortune. Des huitaines respiraient sur cette nouvelle terre, et si son sommeil ne laissait pas d'être sans cesse assailli de mille terreurs soudaines, compagne inséparable du crime, si parmi des draperies de velours, il avait continuellement sous les yeux l'image épouvantable des corps charmants qu'il avait frappés dans la fougue de ses transports homicides, du moins le glaive du bourreau n'épouvantait-il pas autant sa conscience déchirée et le souvenir de ses banqueroutes frauduleuses ne martelait-il pas autant son esprit? Son premier plan en habile hypocrite fut sous un faux nom de se faire à Juliet, ville de guerre peu éloignée de la Hollande, une réputation d'honnête homme et de négociant voyageur. En peu de mois, il avait donc usurpé une certaine confiance dont il se proposait bien d'abuser suivant sa coupable coutume. Mais le ministère du Stadthalder, vu le danger de ses goûts, l'ayant signalé dans toute la Belgique, de même que des naturalistes seraient correspondus entre eux sur l'apparition d'un animal monstrueux qui n'aurait pas encore pris rang dans l'échelle des êtres, de Sweden se vit réduit, poursuivi de nation en nation, à dérober sa tête dans le sein d'une épaisse forêt au milieu de la Franconie. La fortune, celle qui, d'un sourire trompeur, favorise pendant quelque temps les scélérats, la fortune le servit à merveille dans sa fuite. Instruit que, près du village d'Oppendorf, entre Nuremberg et Bamberhof, sur une montagne assez élevée, il existait depuis grand nombre d'années un vieil ermite octogénaire Il a résolu, à l'imitation d'un personnage semblable dans Gil Blas, de l'assassiner et de s'appliquer sa barbe et sous ses habits de pourvoir à la sûreté pendant quelque temps, jusqu'à ce que de plus favorables circonstances lui permissent de jouer un rôle plus éclatant. Le coup ayant réussi au gré de ses infâmes désirs, Deswitten enterra soigneusement le pauvre ermite, s'affubla de sa robe de capucin, et ayant étudié sa marche et tous ses pieux discours, il fit prendre le change dans tous les villages circonvoisins et laissa toutes les paysannes qui vinrent en pèlerinage vers lui, persuadées qu'elles avaient toujours affaire au père Ambroise dans la communication de leurs superstitieuses consultations. Le calme dont il jouit dans ce nouvel état de choses, loin de le porter à un pieux repentir, ne fit au contraire qu'attiser avec plus de violence les passions criminelles qu'il avait rendues le fléau le plus dangereux de la société. Et de charmantes villageoises, parées de tout ce que le costume allemand a de piquant et de gracieux, s'étaient établies dans sa familiarité, et il prit la cruelle résolution d'en faire les objets de ses inclinations assassines. Ce fut la belle Marianne Stenbach, la rosière de son hameau, qui tomba la première dans le piège. Ingénue et pure comme un beau lys sur un trône de verdure, son cœur innocent n'avait pas été terni encore de la plus légère faute. Comment aurait-elle soupçonné du crime, dans un âge et sous un habit que sa religion lui ordonnait de respecter? D'abord, Deswitten, craignant de se déclarer avec trop d'ouverture, questionna adroitement ses esprits timides, lui fit quelques demandes insidieuses, et joignant le geste à la séduction de ses discours, il chercha à corrompre une vertu d'autant moins expérimentée que Marianne ignorait jusqu'aux formes qu'empruntait le vice. Hardi par un silence mal interprété, Deswitten, se dépouillant donc d'un air théâtral de sa robe et de sa fausse barbe, et se prosternant aux genoux de celle qu'il voulait perdre, lui déclara avec la plus vive chaleur qu'elle voyait rien moins qu'un vieux ermite à ses pieds, mais bien le comte de Blinchenstein, qu'une faute politique avait éloigné de la cour de son roi. À cette déclaration foudroyante, à ce brusque changement, Marianne, plus épouvantée que touchée, ne songe qu'à la fuite et pense que Satan en personne s'est glissé dans l'ermitage. Mais elle veut fuir en vain, car Deswitten ne s'est pas plutôt aperçu de son dessein qu'il s'empare d'elle, lui jette les bras autour de la taille et lui plaçant un mouchoir sur la bouche, étouffe ses cris perçants. L'infortunée dut donc subir son malheureux sort et n'échanger la fleur de sa virginité que contre un sanglant cyprès. Le barbare, après l'avoir mutilé dans les parties qu'un époux légitime aurait la peine osé effleurer d'une lèvre respectueuse, l'ensevelit dans la forêt adossée à son ermitage, la couvrit de feuillage et fit courir le bruit qu'il l'avait vu fuir avec un maréchal de logis de hussards du régiment de Barco, dont un escadron se trouvait alors cantonné dans ses barrages. La désertion de ce même maréchal de logis, mais pour un autre motif, donna pendant longtemps à cette imposture un air de vérité. Marianne, au céleste Élysée, fut suivie de plus d'une victime. Le monstre, par une aversion affreuse, n'était heureux qu'en donnant la mort. L'épouvante était dans le pays, mais la simplicité de ces bonnes gens ne pouvait leur faire jeter leurs soupçons sur l'homme qu'ils croyaient, au contraire, avoir été placé par Dieu même au milieu de leur province comme une sauvegarde sacrée. Il lui faisait donc 1000 offrandes, afin de conjurer le fléau qui les décimait dans la personne de leurs filles et de leurs épouses, et deux huitaines contenaient leurs plaintes par le fanatisme et faisaient tout pour qu'elles n'allassent pas jusqu'au trône du prince. Dans ses courses, il avait encore remarqué une très jolie fermière, mère de trois enfants, dont le mari était souvent absent pour aller vendre son grain au marché. L'idée de la posséder éveillait puissamment sa pensée. Il se rend donc un grand matin chez elle, sachant qu'elle était seule avec ses enfants. Et jetant le masque, il lui déclare son amour dans les termes les plus vifs. La fermière, indignée, voulut appeler ses valets de ferme pour l'arrêter. Mais des huitaines, qui avaient examiné attentivement toutes les localités avant de risquer son aveu, savaient bien que toute retraite était fermée à la fermière. Et pour rendre sa position encore plus difficile, il s'était emparé de ses trois enfants, les avait enfermés dans une salle voisine dont il tenait la clé, et dans cet état, déclara à l'infortunée fermière que de sa soumission à tous ses désirs dépendait la vie de ses enfants. L'alternative sans doute était terrible, mais la paysanne, animée d'une indignation soudaine, ne put céder à cette horrible capitulation, et s'enfermant dans son cabinet, elle remit le sort de ses chers enfants entre les mains de la Providence. Le scélérat tenta donc plusieurs fois de corrompre la fermière, mais la trouvant inflexible, il égorgea sous ses yeux, car elle pouvait tout voir à travers un petit guichet, un de ses pauvres petits-enfants. Les deux autres subirent le même sort, et la femme ne se retira qu'après un horrible carnage, ouvrage de ses mains infernales. Rentrée dans cet ermitage après ce trait épouvantable qui serait bientôt divulgué, était une chose à laquelle il ne fallait plus songer. Les huitaines ne pensent donc plus qu'à fuir et à se faire le chef de quelques brigands obscurs qui infestaient la forêt. Ainsi résolu, il part armé jusqu'aux dents. Et au moyen de quelques signaux qu'il savait être familiers aux bandits dans un cas de détresse, il se vit bientôt entouré d'une assez grande quantité de malfaiteurs. L'espèce de génie qui brillait sur son front, son air de supériorité, d'audace et sa taille haute le font aussitôt bien venir de la troupe. Leur commandant ayant été pris, il y avait quelques semaines, dans les environs de Nuremberg, ville dans laquelle on avait appris qu'il avait fait une fin tragique sur la place publique, des huitaines fut accepté à l'unanimité. Et ils ne balancèrent pas, surtout quand ils apprirent que c'était lui qui avait joué si adroitement le rôle du faux ermite. « Nous avons médité un fameux coup, dit à son tour le lieutenant de la troupe, sur un riche seigneur des environs. Mais c'est un infamatoire qui nous opposera les plus grandes difficultés. » Des huitaines se fit rendre compte de suite, en sa qualité de chef, de tous les détails de cette entreprise, et l'ayant examiné sur tous les points de vue, il annonça qu'il se faisait fort d'être l'âme et le principal artisan de ce succès. Des brigands ne lui cachèrent pas que ce seigneur, le baron de Neustadt, était très brave en sa qualité d'ancien militaire, qu'il avait beaucoup de domestiques et qu'enfin on devait s'attendre à courir les plus grands dangers dans cette glorieuse expédition. Des huitaines resta calme et il persista toujours dans les mêmes sentiments. La maison de campagne de ce seigneur étant éloignée de 10 à 12 lieues de là, il fut arrêté qu'on marcherait toute la nuit dans l'épaisseur de la forêt qui y conduisait. Qu'arrivés à une lieue de distance, la troupe passerait la journée dans les environs, tandis que lui sous sa robe et sa fausse barbe de capucin, il irait, au déclin du jour, demander l'hospitalité au vieux seigneur, comme un pauvre quêteur du couvent des frères des chaussées de Bamberg. Une fois introduit dans la maison, il répondait d'en rendre l'entrée difficile, facile, et de faire entendre ses signaux à la troupe, qui aurait soin d'ailleurs à la nuit close de s'embusquer dans la charmille du jardin attenant à la maison. Ces dispositions prises, de Swithun part, muni de poignards et de pistolets, pénètre dans l'habitation du baron de Neustadt, et d'un ton humble et extrêmement poli, lui fait entendre qu'il désirait passer la nuit chez lui à cause du long chemin qui lui reste à faire encore pour retourner au couvent. Son air vénérable touche le baron, qui lui fait le plus doux accueil et le recommande à ses deux filles comme un bon père dont l'âge et l'habit méritaient tous leurs égards ainsi que tout leur respect. À peine Deswithen a-t-il aperçu ces deux charmantes personnes que son poil se hérisse, ses sens frémissent, tels que le ferait un tigre sanguinaire à la vue d'un timide chevreuil. On l'invite à entrer, à s'asseoir, à déposer sa besace et à se rafraîchir en attendant le souper qu'on ne tarderait pas à servir. Le faux capucin accepte, et l'on allait effectivement se mettre à table, quand on entendit frapper à la grande porte à coups redoublés. Après quelques instants passés dans l'inquiétude de ce que ce pouvait être, un domestique vint annoncer à M. le baron de Neustadt que c'était une ordonnance du régiment des hussards de Barcau qui, s'étant égaré longtemps dans la forêt, était ainsi que son cheval extrêmement fatigué et demandait à passer la nuit dans sa maison, ayant encore beaucoup de chemin à faire pour porter à leur destination les lettres dont elle était chargée. Le baron, comme nous l'avons dit, avait servi, aimait à la passion les militaires, et ne vit dans cette circonstance qu'une occasion délicieuse de parler de ses vieilles campagnes. Deswithen était bien loin de partager sa joie. La présence de cet étranger pouvait contrarier tous ses desseins et compromettre par la suite la sûreté de son monde. Cependant, comme il était plus temps de reculer, il fit comme le grand César quand il passa le Rubicon et remit entre les mains de sa fortune ses hasardeuses destinées. Le hussard introduit, les compliments ainsi que des excuses faites de part et d'autre, ont servi le souper. Le baron se plaça entre le militaire et le capucin, ayant ses deux filles en face de lui, et la conversation ne roula plus que sur un amas confus de sièges, de batailles et de combats sanglants. Le hussard, tout en ne laissant rien désirer au baron touchant cette intéressante matière, n'en examinait pas moins du coin de l'œil le traître de Swithun, dont les deux demoiselles ne pouvaient d'ailleurs soutenir les regards lascifs. Le repas fini, le capucin, ainsi que les autres convives, s'étant signés, on se salua, suivant la coutume allemande, et on passa dans la salle où l'on fume pour y choisir des pipes. Ce fut à ce moment que le généreux hussard saisit pour tirer à lui le baron et l'entraîner, sans que Deswithen s'en aperçût, dans la salle voisine. Vous croyez avoir probablement chez vous un saint homme, un respectable religieux, lui dit-il. Eh bien moi, je vous jure, par l'honneur de mon escadron, que ce n'est qu'un infâme brigand. À cette confidence extraordinaire, le baron pâlit et chercha dans la figure du hussard si le vin ou les liqueurs auraient un peu troublé son cerveau. Oh, ne doutez pas un instant de ma saine raison, lui répliqua ce dernier. Je vous dis, je vous répète, que le prétendu frère quêteur n'est qu'un bandit, et qui ne se sera pas glissée ici à une telle heure, et si éloignée de son couvent, sans avoir des projets. Apprenez enfin, baron, que sa barbe est postiche. Tiens à un fil que je lui ai aperçu près de l'oreille. Et qu'en outre, j'ai vu briller une pointe de stylet sous sa robe, près du cordon qui attache son crozet. À ces nouvelles communications effrayantes, le baron ne douta plus de la pénétration du hussard. Il ne savait déjà dans quels termes lui faire ses excuses et à la fois lui témoigner sa vive reconnaissance. « Silence !» lui dit le hussard, « silence ! Laissez-moi conduire cette affaire, je réponds de tout. Voilà en deux mots ce qu'il faut que vous fassiez. Vous allez d'abord armer tous vos domestiques en sous-main. Vous munirez vous-même d'une paire de pistolets. Et rentrant ensuite dans la salle où je vais rejoindre le faux capucin, vous nous annoncerez avec un air de regret qu'une de vos parentes ayant tenu par une de ses lettres l'appartement d'honneur que vous désignez au révérend père, il ne vous en restait plus qu'une chambre, à deux lits, il est vrai, pour moi et l'étranger. Ce plan bien concerté, le hussard revint au bout de peu de temps dans la salle commune, accompagné du baron, en ne sentant rien paraître sur la figure qui peut donner le moindre éveil. Le faux capucin était en ce moment occupé à converser avec les filles du baron et se servait de tout son esprit pour les retenir près de lui par les charmes de son entretien. Sur ces entrefaites, le baron lui apprit le plus poliment possible qu'il n'avait en ce moment à sa disposition qu'une chambre à deux lits et le pria de consentir à ce que le hussard, étant aussi très fatigué, y passa la nuit. Loin que cette nouvelle particularité fût pour de Suiton un contretemps, il la considéra au contraire comme une faveur du sort qui lui permettait de se défaire facilement pendant son sommeil de ce dangereux intrus. Quelques instants s'étant donc écoulés dans une conversation générale, chacun prit un flambeau et les politesses d'usage remplies, on se retira dans son appartement. Le cruel des Huitton n'avait pas laissé de remarquer le chemin que prenaient les deux demoiselles du baron, s'imaginant dans sa fausse sécurité que tout le monde va dans cette demeure se livrer aux douceurs du sommeil. Mais à peine M. Dönstadt est-il avec ses filles, qui leur communique les remarques du pénétrant hussard, et ne leur cache rien de toutes les dispositions qui ont été arrêtées sur la direction de ses conseils. Les deux demoiselles ne pensent donc plus à se livrer à un dangereux repos et attendent dans la plus vive inquiétude l'issue d'un événement si singulier et si inquiétant. De leur appartement, gardé par le baron, par les domestiques déjà armés, passons à celui du faux capucin et du hussard. Ce dernier, ayant achevé près de la cheminée une demi-bouteille de rhum, dont lui avait fait présent M. Dönstadt, et fumait encore un ou deux pipes, feignit de s'y endormir, après avoir caché soigneusement son sabre damassé près de lui, tandis que le capucin, de son côté, avait faim de se déshabiller, de se coucher. Que le lecteur juge lui-même de l'intérêt mutuel de cette situation. Ici, la seule pensée vaut mieux que toutes les plus brillantes hyperboles. Ainsi, dans cet état périlleux, d'un et de notre côté, Deshuitaine, supposant le hussard enseveli dans un premier et profond sommeil, conjecturant encore que l'heure du signal qu'il devait donner à ses gens du dehors approchait, se lève sur son séant avec le plus de précautions possible, s'arme d'un poignard et se dirigeant sur la pointe du pied vers la lampe qui brûlait sur la table, il la souffle, puis se retournant avec adresse, il lève le bras pour percer le sein du hussard. Mais celui-ci, aux aguets de tous ses mouvements, n'avait pas perdu un seul de ses gestes, et au moment où de Swithun se disposait à porter le coup mortel, il saisit, plus vif que l'éclair, ce même moment pour faire voler d'un revers de son sabre damassé la tête du faux capucin, qui va rouler loin sur le parquet dans des flots de sang, avec un mouvement d'agitation et de rotation effroyable. Après cet exploit, le hussard visita la ceinture de Swithun et s'emparant d'un sifflet bien précieux dans cette circonstance, il s'élança vers l'appartement du baron et l'instruit de tout ce qui s'était passé. Pour toute réponse, M. de Neustadt le serra tendrement dans ses bras et dans l'effusion de sa gratitude, le nomma à son cher fils, son libérateur. « Ce n'est pas tout, » interrompit l'intrépide hussard. « Si je suis bien secondé, je réponds d'exterminer toute la bande dont j'ai indubitablement détruit le chef. » Le baron lui répondit qu'il pouvait ordonner sans réserve. Le hussard, faisant donc embusquer dans diverses parties de la maison les domestiques armés, enfermant avec soin les deux demoiselles et s'affublant à son tour de la barbe et de la robe du faux quêteur, donna dans les cours un coup de sifflet perçant. Puis, ayant l'air d'ouvrir mystérieusement la grande porte, il introduisit les brigands, trompés comme vers un lieu de triomphe. Mais à peine furent-ils dans les chambres, qu'ils se disposaient à piller, que tous les gens du château ainsi que le baron, tombant inopinément sur eux, aucun ne réchappa de cette utile boucherie, et le sang impur de tous ces scélérats apaisa du moins un peu les mânes des victimes de Swithun. La victoire était complète, surtout le butin immense. Cependant, le hussard, prudent et attentif au sein de sa valeur, eut soin que les filles du baron ne sortissent pas de leur appartement et ne souillassent pas à leurs pieds au milieu de ces débris sanglants. Ce ne fut que quand, à la pointe du jour, on eut relevé les cadavres et fait disparaître jusqu'aux moindres traces du carnage, qu'elles purent participer à la joie générale. Le hussard ne laissait pas d'éprouver la plus vive curiosité de fouiller le corps de Swithun afin d'apprendre par de nouveaux indices à qui ils avaient eu affaire. Mais étant retourné dans sa chambre avec le baron, qui éprouvait également la plus vive impatience à son égard, quel fut son étonnement, que dis-je, son épouvante, quand étant entré d'un pas précipité, un gouffre de feu s'ouvrit sous ses pas, au fond duquel il entrevit dans des flots de flammes le corps du faux capucin se débattant entre les poignards de mille furies infernales. Consternés, lui et le baron, ils se retirent dans un saint respect. Alors le prodige cesse, plus de gouffre, mais la tête sanglante de Swithun se voit dès cet instant sur la table, près de la lampe qu'il a soufflée dans un projet homicide, et même cette lampe est allumée. Elle parle, cette tête. Elle fait des contorsions épouvantables, et un poignard dans les dents, elle semble survivre au crime pour lequel elle est née. Les mâchoires, les yeux, tous les muscles dans une contraction horrible, expriment encore le meurtre, la soif du sang, de la vengeance, et la lampe brûle continuellement pour éclairer cette scène affreuse. En vain, notre intrépide militaire, s'efforçant de vaincre ses prestiges qu'il croit les effets de son imagination agitée par les événements de la nuit, veut s'élancer. Et aussitôt qu'il entreprend de faire un pas de plus, le gouffre se rouvre, présente ses abîmes de feu, tandis que la tête mobile et sanglante, faisant claquer ses dents sur la lame d'un poignard, s'anime de nouveau de toutes les expressions de la rage et de la menace. Ce n'était plus d'ailleurs la figure d'un capucin hypocrite et enveloppé d'une fausse barbe. C'était celle du cruel de Suiton, dont le ciel avait voulu éterniser le supplice en le faisant vivre de la vie des âmes damnées au sein même du théâtre où il avait reçu le coup mortel. Le baron détourna donc son libérateur de l'idée de braver davantage un prodige qui marquait à un point si éminent la puissance divine, et abandonnant tous deux ce lieu d'horreur, ils allèrent en faire part à tous les gens de la maison. Des incrédules osèrent en douter, mais de quel effroi ne furent-ils pas frappés quand, cherchant à ouvrir la porte de l'appartement infernal du faux capucin, ils la trouvèrent d'abord brûlante et distinguèrent cette tête effroyable à travers des nuages de flammes et de fumée. Il fallut donc abandonner cette affreuse demeure que Dieu avait assignée aux tourments éternels du crime. Heureusement que la fortune du baron ne se bornait pas à cette possession et qu'ayant d'autres biens, il fut en état de récompenser dignement le courageux hussard dont il acheta le congé et qu'il maria avec une de ses filles pour prix de sa bravoure. Quant à la maison de campagne abandonnée, le baron, ayant eu une fois la nouvelle curiosité de l'approcher, il vit qu'un marais immense l'avait investi de toutes parts. Les paysans des environs l'assurèrent en outre que l'on avait vu souvent, pendant la nuit, des ombres qui se poignardaient entre elles et faisaient tomber goutte à goutte dans le marais le sang de leurs blessures. Des fantômes s'asseyaient ainsi sur les toitures, puis on entendait les échos de la forêt répéter dans un lointain gémissement « Fuyez l'approche de la tête sanglante de Suiton !» M. de Neustadt, effrayé de tant de prodiges, ne voulait plus entendre parler de cette maison. Et pour en perdre le souvenir, il s'alla établir avec toute sa famille à Ratisbonne, où il finit ses jours au sein de la paix et du bonheur.